Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour Anne-Marie, bonjour Aurélie.
Bonjour Guillaume.
Bonjour
salut
à tous.
Aurélie.
Salut
Aurélie. Et bonjour à vous qui
nous écoutez. Voilà. Vous pouvez toujours nous appeler, vous auditeurs, si vous le souhaitez. Vous pouvez appeler la radio pour passer à l'antenne, comme il y a 15 jours. C'est très ouvert, notre émission. Et vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr tout à fait possible. Alors juste, avant pour commencer cette émission, on va vous expliquer, avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, on va vous expliquer comment on prépare l'émission. Et alors voilà, c'est un petit son, vous reconnaîtrez...
Un petit son du off.
Voilà, un petit son du off, et vous reconnaîtrez la voix d'Anne-Marie.
Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Voilà, c'est simple, hein, finalement.
Voilà. Non, hors contexte, ça veut rien dire, mais voilà.
Bah, hop, 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 et puis voilà.
Bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, les filles? On va commencer avec Anne-Marie.
Oh, bah, vu l'heure, on va parler cuisine.
Bien, mais moi je vous parlerai du petit Paris ou du grand Paris, on ne sait pas, enfin, on verra ça tout à l'heure.
On verra. Et toi Aurélie?
Eh bien moi je vais vous emmener au bout du monde pour vous parler de l'île Tromelin.
Tu veux nous faire rêver?
Ouais, voilà. Ou pas.
C'est gentil. On verra.
Bien, mais on va commencer donc avec Anne-Marie et donc un peu de cuisine.
Oui, tout à fait. Alors, vous vous souvenez sûrement tous et toutes des chroniques culinaires de Maïté. Hein, l'image de cette restauratrice en train d'essayer de tuer une anguille restera, je pense, dans les annales. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous parler de cette cuisine d'antan, celle familiale qui composait des repas de famille. Alors, certes, hein, souvent à l'occasion de cérémonies comme des baptêmes ou des communions, durant lesquels il fallait manger deux entrées, du poisson, de la viande, du fromage pour finir par un dessert bien calorique.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus.
Voilà, ça c'est fait.
Extrait d'Anne-Marie.
La cuisine a changé de recette depuis. La cuisine plus raffinée, gastronomique, s'est imposée dans notre quotidien et fait même les beaux jours de la télé. D'ailleurs, c'est à l'occasion de la saison 4 de Masterchef diffusée sur TF1 que j'ai voulu mettre en lumière, dans notre émission Actuel et lui, la formidable épopée de la cuisine gastronomique, une cuisine qui a véritablement la cote.
Bon bah en même temps, tu nous fais pas tellement voyager. Là, la France est quand même reconnue pour sa cuisine depuis longtemps.
Effectivement. Bon, en même temps, c'est pas moi qui vous ai proposé le voyage, hein. C'est plutôt toi, Aurélie. Oui. Mais tu as raison, le Moyen-Âge a vu les développements de somptueux banquets qui ont porté la gastronomie française à un niveau supérieur, avec une nourriture décorée et fortement assaisonnée. Avec la Révolution française, les habitudes ont cependant été modifiées avec une utilisation moins systématique des épices et avec le développement de l'utilisation des herbes aromatiques et de techniques plus raffinées. La cuisine française n'a été codifiée qu'au XXe siècle avec Auguste Escoffier, grand restaurateur de l'époque. C'est à partir de ce moment-là que la cuisine française est devenue la référence moderne en matière de grande cuisine. Elle est aujourd'hui encore réputée comme l'une des références dans le monde en raison de son aspect culturel. L'œuvre d'Escoffier laissa toutefois de côté une grande partie du caractère régional que l'on peut trouver dans les provinces françaises. L'essor du tourisme gastronomique, avec l'aide notamment du guide Michelin, a contribué à un certain retour aux sources des gens vers la campagne au cours du XXe siècle et au-delà. Enfin, pour rappel, sachez que le 16 novembre 2010, l'UNESCO a étendu sa protection aux repas gastronomiques à la française, côtoyant plus de 200 autres pratiques et coutumes culturelles au panthéon du patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Cependant, l'UNESCO n'a distingué aucune recette française en particulier, donc pas l'aligot...
La blanquette...
Voilà. C'est davantage le rituel identitaire qui a été mis en valeur, un mélange original de convivialité et de gastronomie qui rassemble les Français autour d'une table apprêtée en vue de partager des mets de qualité accompagnés d'un vin approprié, même si on rappelle qu'évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la
santé.
Voilà.
Et donc, tu nous disais effectivement, la télé se frotte les mains avec plein de concepts d'émissions culinaires.
Tout à fait. Alors finalement, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que cela ne datait pas d'aujourd'hui ni d'hier finalement, puisque la première émission culinaire, c'était en 2004 sur M6 avec Oui Chef. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui, avec Cyril Lignac.
Exactement, Cyril Lignac, que l'on retrouve toujours aujourd'hui à la télévision. Il en a fait vraiment son business. Devant le succès de Oui Chef, un concept directement importé de Grande-Bretagne, les chaînes françaises vont progressivement s'intéresser à ce nouveau marché après celui des télécrochets musicaux. Donc, on va plus laisser tomber tout ce qui est Nouvelle Star, Starac, etc. M6 fait figure de proue et lance successivement Chef la recette, Vive la cantine, Un dîner presque parfait, Le chef contre-attaque, Miam ou encore Cauchemar en cuisine avec le terrible chef cuisinier qu'Aurélie aime beaucoup, à savoir Philippe Etchebest.
Etchebest.
Voilà, tu le dis beaucoup mieux que moi. Oui.
Mais et tu cites pas Top Chef aussi?
Ah bah j'arrive.
C'est pas sur la 6.
Après je...
Ah, si, c'est sur la 6.
Ah oui, c'est Masterchef qui est sur la 1.
Tout à fait, il y a aussi Top Chef, effectivement. Alors, toutes ces émissions sont des succès d'audience importants, à tel point même que la chaîne TF1, longtemps réticente, a lancé en 2010 sa propre émission culinaire, Masterchef. Par ailleurs, France 2 a copié ses voisins en proposant il y a peu « Qui sera le meilleur pâtissier ?» et désormais présenté par le chef Michalak dans l'impôt d'un chef.
Ça ne marche pas du tout hein, au niveau des audiences.
C'est pas vrai. Pourtant, il est formidable aussi, ce petit Michalak.
c'est sûr qu'il est mignon, mais pour autant, son programme ne marche pas du tout.
Même sans ça, c'est un super cuisinier et pâtissier. Et puis, c'est un peu, je trouve, le fil conducteur là, de tout ce que tu nous dis. Il y a quand même à chaque fois des visages, des chefs.
Disons que les chefs deviennent limite des rock stars. En fait, c'est un peu les boys bands de notre époque quand on était adolescent. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les stars en fait, des programmes. Ouais, ouais. Mais il est vrai que France 2 n'a pas trouvé la bonne recette, puisque même qui sera le meilleur pâtissier est passé un petit peu à l'as. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment M6 qui fait figure de proue concernant ces émissions.
C'est vrai que Top Chef a été un grand, grand moment de télé avec quatre grandes signatures, oui. Jean-François Piège, Guylaine Arabian, enfin voilà...
Eh bien, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, effectivement. Ouais. Tu as tout à fait raison, Guillaume. M6 diffuse, alors, en ce moment, une autre émission, La meilleure boulangerie de France. Ouais. Alors, ce sont plus de 5000 boulangeries quand même inscrites. Hein.
Donc, c'est un road trip, finalement, c'est ça
compliqué. Exactement. Je trouve que c'est hyper compliqué.
Bah, ce sont les clients eux-mêmes qui ont inscrit leur boulangerie préférée, finalement. Et donc, 84 établissements retenus pour participer à ce concours. Donc, chaque semaine, le jury se rend dans une douzaine de boulangeries. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a trop. Regroupés dans une des 7 grandes régions de France. Au terme de chaque semaine, la boulangerie retenue représentera sa région pour la grande finale. Voilà. Alors bon, il y a aussi France 5 hein, qui présente des émissions culinaires.
Avec Jean-Luc Petit-Renaud.
Exactement, les escapades de Petit-Renaud. Donc bref, avec toutes ces émissions culinaires, forcément, ça nous ouvre l'appétit, même s'il ne faut pas qu'à la longue, cela devienne une indigestion.
Oui, alors, peut-être que tu peux nous décrire quelques-unes de ces émissions et peut-être revenir sur le fameux Top Chef.
Top Chef, exactement, parce que Top Chef, bon, bah, c'est ma préférée.
Moi aussi, clairement.
Bon, alors, donc c'est une émission diffusée sur M6, déjà 4 saisons qui ont marqué nos esprits, avec la victoire dernière donc, de Naoël, alors, bon, qui a été un petit peu critiquée sur les réseaux sociaux. N'empêche que c'était quand même une très, très bonne...
cuisinière.
C'était magnifique ce qu'elle faisait. On n'a pas pu goûter ses plats, mais c'était magnifique, en tout cas au niveau du visuel. Le principe est très simple, en tout cas sur le papier. 12 jeunes espoirs de la cuisine sont jugés par 4 chefs. Donc, tu le disais tout à l'heure, Guillaume, Guylaine Arabian, Thierry Marx, Jean-François Piège, Christian Constant. Sans oublier leur coach, à savoir...
Cyril Lignac.
Voilà. Les candidats s'affrontent dans différentes épreuves pour tenter de devenir le top chef de l'année et remporter la coquette somme de 100 000 euros. C'est une émission qui fait saliver les téléspectateurs et qui rapporte à M6, puisque les audiences, comme tu le disais effectivement précédemment, Guillaume, oscillent entre 17 et 18% de part de marché, ce qui est quand même pas mal avec toute la concurrence qu'il y a autour.
Alors, ça marche bien, notamment, ils obtiennent ces scores. Enfin, c'était une des explications en faisant des émissions très, très longues. Et ce qui fait que les gens en fait, se reportent sur l'émission en deuxième partie de soirée, ce qui permet d'augmenter les recettes. Ben voilà, parce que donc, l'émission est très longue et le dénouement finalement, a lieu en deuxième partie de soirée, ce qui permet aux gens éventuellement de ne pas voir l'intégralité du programme.
Nous, on s'en est souvent plein. Hein. Oui, mais voilà. Purée, contre, minuit.
Mais bon, après, il y a M6 Replay. Alors, c'est sûr que moi, en tant que petite DJ, je regarde la première partie et puis la deuxième le lendemain.
Ouais. Et puis, on peut parler de deux talents finalement ressortis de la dernière saison qui ont aussi été retenus par le groupe M6 sur la chaîne Sister, avec Norbert et Jean, le défi.
Et ça, il y a déjà 2 ans, puisque leur émission a été renouvelée cette année.
Oui, voilà, mais voilà. C'était la saison, la dernière. Oui,
parce que il est vrai que Norbert, forte personnalité, je pense qu'il a été retenu plutôt pour ça. Jean, c'était Jean plutôt pour la qualité de ses plats, et puis le visuel aussi, parce qu'il avait été souvent admiré, justement, pour ce qu'il faisait.
Et les défis qui relèvent sont assez... Enfin, je trouve que c'est assez intéressant, enfin, c'est assez marrant.
Disons, voilà, tu leur écris et puis ils viennent chez toi. Voilà.
Si c'est ça, tu leur proposes un défi. Et je trouve le concept aussi original, peut-être par rapport à tous ces concours. Là, on est dans autre chose. Mais
exactement, ça change un petit peu. Non, mais c'est sûr.
Mais c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, la forme aussi est quand même assez importante. Je pense que si Top Chef nous plaît, et c'est peut-être ce qui nous a un peu déstabilisé dans le pâtissier de la 2, c'est que moi, par exemple, j'avais vraiment du mal avec le fait que l'élimination, elle se passait au milieu de l'émission et qu'on repartait pour une nouvelle série. On est peut-être un peu conditionné dans le côté concours, voilà, montage avec un début, un milieu,
et
une fin.
Et puis il y a un certain suspense qui te fait tenir jusqu'à la fin, effectivement. Alors, seul le niveau des candidats fait la différence finalement entre Top Chef et Master Chef.
Eh oui, puisque dans Top Chef, c'est des professionnels et dans Master Chef, c'est des amateurs.
Effectivement, Master Chef, alors on retrouve des infirmiers, des maçons, des profs qui, passionnés de cuisine, veulent changer leur destin. Mais pareil, ils sont notés sur diverses épreuves culinaires, comme par exemple préparer de l'avocat en dessert. Et donc justement, qu'on aime ou pas ces émissions, elles servent quelque part à démocratiser la cuisine gastronomique et à démystifier son image. Non, la cuisine gastronomique n'est plus réservée à une certaine élite. Ces émissions nous poussent à changer nos habitudes. Désormais, on peut préparer des coquilles Saint-Jacques crues ou des betteraves en dessert. Cela ne surprend même plus.
Oui.
Ouais,
ou pas.
En tout cas, on commence à avoir l'habitude. Voilà, c'est vrai qu'avant, ça se faisait pas forcément.
On découvre des trucs, des techniques.
Des gestes, moi, je crois, surtout.
Des techniques, des instruments, enfin voilà.
Mais c'est qu'on ose.
On ose. Donc finalement, la cuisine, nous, on voit bien, ça suscite le débat autour de notre table. Tout le monde amène son grain de sel, justement. Mais c'est aussi une recette juteuse et pas seulement pour la télé, parce que ça nous intéresse, ça nous intéresse tous.
Tu as raison, Aurélie. Effectivement, la sauce a bien pris. Alors pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Les livres de cuisine comme des magazines spécialisés se vendent comme des petits pains. Vous avez limite autant de livres de cuisine et de magazines spécialisés qu'il existe d'aliments dans votre garde-manger. Les ateliers cuisine avec des professionnels se multiplient et les blogs cuisine abondent sur la toile. Les coffrets cadeaux tels que week-end gastronomique ou table de chef font un véritable tabac. Incroyable mais vrai, la cuisine est même devenue le fantasme numéro 1 des trentenaires qui veulent changer de boulot. C'est vrai, quand on pense à une reconversion possible, aujourd'hui on se dit pourquoi pas se lancer dans la restauration.
Mais on voit que malgré tout dans Cauchemar en cuisine, que c'est pas à la portée de tout le monde non plus,
et que c'est un vrai métier. Et voilà, et qu'il faut, je pense, bien mûrir ce projet, parce que bon, c'est aussi un investissement énorme, un fonctionnement énorme, et puis on a la pâte ou on l'a pas, et puis on a l'expérience ou pas, effectivement.
Restaurateur, c'est
ce que j'allais dire, c'est aussi de la gestion, c'est un tout. Mais il est vrai qu'encore une fois, ça reste un fantasme aujourd'hui.
Oui. Alors comment t'expliques ce succès?
Alors, comme je l'ai dit auparavant, bien manger fait partie de notre passé, de notre patrimoine. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on appartient aussi à une génération qui entend chaque jour le bien fondé de manger bon, manger équilibré. Et puis, derrière la cuisine se cache également l'idée de la convivialité, de la famille, du partage. Enfin, d'un point de vue très personnel, moi, ça me fait du bien, ça me relaxe de préparer des bons petits plats. Et moi, qui ne suis pas forcément très manuelle, je trouve cela assez valorisant, justement, de créer de mes propres mains des plats éphémères, pas forcément originaux, mais qui font plaisir aux papilles.
Moi je confirme, elle est très modeste, mais c'est toujours très bon.
Et puis je pense aussi qu'on a entendu ces derniers mois beaucoup de polémiques concernant l'origine, le conditionnement des aliments. Mmh. Et peut-être qu'on a envie de revenir justement à la cuisine terroir, où on va transformer nous-mêmes le produit.
Oui, ce succès souffle aussi sur la Lozère et sur Mende.
Sur Mende en particulier, puisqu'effectivement, ce succès souffle même sur le studio de 48FM. Hein, on le sait, Guillaume, toi, tu nous avais parlé des lasagnes. Alors, oui. Tu ne nous en avais pas préparé, c'était Aurélie. C'est ça. Mais tu nous en avais parlé dans une de tes chroniques. Aurélie, toi, bon, il y a peu, on ne peut pas l'oublier. Hein.
Les algues. Hein.
C'était vert. Tu nous as parlé du thé matcha, qui a beaucoup plu d'ailleurs à Ludovic Terol. Et tu nous avais parlé aussi de chocolat.
Oui.
Et puis moi, je vous avais parlé de cuisine japonaise.
Et on avait testé. On avait fait nous-mêmes.
On avait fait nous-mêmes, effectivement, des sushis et des makis.
Tout à fait.
Et on retrouve...
Qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs
toutes nos émissions.
Et oui, voilà. On retrouve toutes nos émissions.
C'est le rôle de Guillaume, voilà, qui normalement, d'habitude, ne rate jamais l'occasion de nous dire www.48fm.org.
Vous pourrez retrouver dans la rubrique Les Mags, Actuel et Lui, toutes les chroniques, effectivement, toutes les émissions de 48FM et bien sûr tous les numéros d'Actuel et Lui avec ses chroniques cuisine. Voilà. Donc, effectivement,
on t'a réveillé.
C'est bon.
Bon, il existe aussi des ateliers cuisine amande, comme ceux bientôt organisés pour les toquets du CEP, hein, le samedi 5 octobre. Donc, comment mettre en valeur les champignons, hormis avec du beurre et de l'ail? Eh bien, réponse, donc, dans quelques jours, avec des cours donnés par des cuisiniers professionnels.
Ah oui, c'était super l'année dernière.
L'an dernier, c'était sympa, oui, oui. Et il y avait un monde fou d'ailleurs. Oui. Hein. Enfin, en décembre prochain, la bibliothèque Lamartine, en partenariat donc avec des associations et des libraires, va organiser la deuxième édition de son événement littéraire Aime lire. Et là, je vous le donne en mille, quelle sera la thématique ?
Cuisine et littérature ?
Voilà. Donc, au menu de ces 5 jours de festivités, alors conférences, salon du livre, mais surtout repas gastronomiques, un concert d'assiettes même. Et puis à noter la présence de l'historienne de la gastronomie et auteur de romans policiers historiques à composantes gastronomiques, c'est Michel Barrière.
Ah oui, super.
Donc un événement plutôt alléchant.
Oui. On avait parlé effectivement avec les amis de la bibliothèque lors des émissions de rentrée des associations sur 48FM et on suivra bien entendu ce dossier.
Voilà, donc preuve qu'amande, on est aussi à la mode finalement.
Ouais, et puis on peut aussi citer tous les restaurateurs... un certain nombre de restaurateurs qui font tout à fait honneur à cette cuisine gastronomique amande en Lozère
pour des prix souvent raisonnables, un très beau décor, toujours très soigné,
souvent aussi les produits locaux qui nous parlent des produits, des producteurs auxquels ils font appel. Exactement. Eux qui sont autour de chez nous, quoi. Donc
ouais. Voilà, une belle occasion aussi de profiter.
Voilà, exactement.
Bien, et on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter, Anne-Marie ?
Eh bien, je vous propose de savourer les crêpes aux champignons d'Olivia Ruiz.
Ah bah voilà. Et les champignons et les crêpes.
Actu,
elle
et lui.
Oui, alors bienvenue dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Je prends la parole puisque Aurélie finit.
On a plein la bouche.
De manger, je crois.
Que... Allez, traître.
Ah bon, on me loupe pas. Non, allez. Bon, on a parlé cuisine, alors finalement, voilà. Ça nous a tous donné envie de manger. Bah, alors, Guillaume, pour cette deuxième partie d'émission, tu vas nous parler de Paris. C'est ce que tu nous disais, alors de grand ou de petit, mais en tout cas de Paris.
Bah, je vais vous parler effectivement d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Oula.
Alors, effectivement, comme ça,
c'est pas très sexy comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est pas forcément très très sexy, effectivement. Mais rassurez-vous, effectivement, je vais pas parler de la Lozère, mais plutôt de notre capitale. Paris et bah, de
oh,
ce.
J'ai cru que c'était Mende, notre capitale.
Oui, t'aurais pu. Hein,
aussi, oui, oui.
Mais...
Nous
en parler, nous pas
mais bon, on va essayer de.
Voilà, s'agrandir un peu plus.
Voilà, on va parler de la capitale de notre nation. Wow. Voilà, et donc du projet du Grand Paris.
Et alors, justement, le Grand Paris, c'est quoi en quelques lignes?
Alors, bah, c'est, effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette source très utile. Et voilà, la Wikipédia. Séquence Wikipédia. Et donc, bah, voilà, Wikipédia nous dit « Le Grand Paris est un projet visant à transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole mondiale et européenne du XXIe siècle afin qu'elle soit en symbiose avec son environnement. » Ça, c'est beau, c'est quand même très fort.
Et là, tu dis, il y a du boulot, quoi.
Voilà, donc c'était un projet qui a été mené par le gouvernement de François Fillon au départ, et avec notamment Christian Blanc, qui était secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale, et donc il a proposé la création de pôles économiques majeurs autour de Paris et la création d'un réseau de transport public du Grand Paris performant qui relierait ces pôles aux aéroports, aux gares TGV et au centre de Paris. Voilà. C'est aussi un projet institutionnel, puisque vous savez qu'on parle beaucoup d'intercommunalité en Lozère et en France, mais à Paris, bah, justement, il n'y a pas du tout cette organisation-là à l'échelle de ce grand espace à gérer ensemble. Voilà. Alors, ça, c'était la première partie, on va dire, et puis dans lequel il y a eu différentes choses. Il y a eu un concours d'architectes et d'urbanistes célébrissimes avec Richard Rogers, Christian de Port-Zampar, Jean Nouvel, Roland Castro, enfin des très très grandes signatures, mais on y reviendra tout à l'heure, ils prendront un petit peu pour leur grade dans quelques minutes. Il y a eu également un atelier international du Grand Paris avec une équipe d'architectes permanente qui a été mise en place. Il y a eu le projet du Grand Paris Express, donc ce train qui fait le tour de Paris et qui permet d'éviter de rentrer dans le centre de l'agglomération pour se déplacer. Et puis le développement du cluster scientifique sur le plateau de Saclay, où on regroupe toutes les grandes écoles, les grands centres de recherche technologique.
La Silicon Valley de Saclay, alors là, tu me fais rêver, Guillaume.
Voilà. Mais donc voilà, c'était un petit peu tout ça dans cette première version du projet. Mais bah, comme je le disais, c'était un projet du gouvernement.
Et comment on en a changé alors justement voilà. Est-ce que ce projet a été maintenu?
Alors le projet, il a été maintenu, mais c'est vrai qu'il s'est quand même plus concentré sur les infrastructures de transport qui sont vraiment capitales en Île-de-France, puisque c'est pour pouvoir y vivre, il y a vraiment ce point-là. Alors il y a une définition actualisée, hein, pareil, je vais vous faire la petite définition aussi. Mais c'est assez paradoxal, vous allez comprendre pourquoi. On retrouve les infos sur le site du ministère de l'égalité des territoires et du logement, alors, qui est en charge de l'aménagement du territoire en France. Mais parler d'égalité des territoires, alors que justement le but du Grand Paris est de faire de la compétitivité, donc de ne pas être égal à un autre territoire, c'est un peu paradoxal, mais c'est, bon, voilà, c'est un petit...
Oui, tu fais un petit peu de mauvais esprit.
Un peu de mauvais esprit, c'est voilà. Ça. Alors la définition, le nouveau Grand Paris, parce que voilà, c'est pas l'ancien, est un projet d'aménagement à l'échelle de l'agglomération parisienne. Il a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants, à corriger les inégalités territoriales et à construire une ville durable. Ça fait rêver, c'est beau, c'est vert, c'est magnifique. Voilà, donc il rappelle que 8,5 millions de voyageurs donc empruntent quotidiennement les transports en commun en Île-de-France.
Ce qui est énorme, enfin.
Ce qui est énorme.
Surtout quand on sait comment ça se passe.
Voilà, surtout qu'en plus, enfin, ce sont des infrastructures, enfin, notamment les infrastructures ferroviaires ont un besoin de modernisation et de développement qui est très très fort. D'autant plus que l'augmentation du trafic est assez importante, 21% en 10 ans. C'est quand même assez énorme.
Oui, et puis l'autre problème que soulèvent aussi beaucoup les Parisiens, c'est que ce réseau ferroviaire actuellement, il est toujours en étoile. Donc il est très facile de partir du centre de Paris pour aller à peu près où on veut tout autour. Mais si on veut aller de banlieue à banlieue, en fait, même quelquefois à 10 km d'un point A à l'ouest à un point B à l'est, alors là, c'est la galère.
Mais tu remarqueras que les autoroutes en France, en fait, c'est exactement pareil.
C'est parisiano-centré.
Voilà. C'est une vision d'aménagement du territoire, effectivement, où Paris est au cœur un petit peu de tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant, malgré tout aussi. Et donc, effectivement, ça rejoint le Grand Paris Express, donc ce métro automatique qui ferait le tour de Paris. Alors, il y a d'autres projets.
Il y a le tram aussi, qui actuellement commence déjà un peu à refaire la boucle.
Il y a plein d'autres projets aussi de développement des infrastructures de transport. Notamment une ligne spécifique de transport aussi en métro automatique entre l'aéroport Charles de Gaulle et la ville. Avec tout ça, avec des conditions un peu particulières. Mais bon, je vais pas aller non plus dans le détail de tout ça parce que je trouve pas ça forcément très très fun. Et c'est pas de ça forcément que j'avais envie.
Oui, d'autant plus que toi, tu voulais nous parler plutôt d'un autre Paris, je pense.
Oui, en fait, je voulais vous parler du Petit Paris.
C'est quoi ça, le Petit Paris ?
Alors, le Petit Paris, c'est le livre de deux jeunes urbanistes qui s'amusent de ce grand concept flamboyant que je viens de vous décrire du Grand Paris et qui joue un peu avec les concepts à la mode de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, on a parlé de la ville durable, de l'intégration, tout ça là, tout à l'heure. Et donc, ils essayent de changer un peu de déguiser un peu le regard en se disant c'est un peu facile parfois d'avoir ces trucs là et alors le sous-titre du livre qui s'appelle donc Le Petit Paris c'est tentative probablement vaine de renouveler l'urbanisme contemporain. C'est un grand défi, mais c'est quand même un petit peu l'idée, et on va un peu approfondir tout ça.
Mais pourtant moi je trouve pas ça je pense qu'il faut quand même le rêver, justement, et qu'il faut aller vers, même si c'est une tentative vaine, ce serait une bonne idée de rêver l'urbanisme contemporain et de se dire, c'est peut-être qu'un projet, peut-être que c'est utopique, mais au moins, on s'y lance. Et eux, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu, s'engager dans un projet un peu inverse, quoi ?
Oui, c'était vraiment... Ils ont souhaité un peu utiliser leur regard critique en sortant de leurs études, je vais vous citer un peu l'avant-propos de leur bouquin, mais l'idée c'est, ils ont joué le jeu en écrivant 200 pages sur le Petit Paris, donc et c'est un vrai.
Ils font une vraie
proposition quand même, un petit peu qui est un peu jusqu'au boutiste d'une certaine façon, mais quand on la lit, elle n'est pas absurde dans tous les cas, notamment au vu de l'application de certains concepts qu'on peut imaginer. Alors effectivement, leur point de départ, ils le disent dans l'avant-propos de leur livre, « Lorsque nous sommes devenus urbanistes, diplôme en poche, nous sommes restés chômeurs un moment. Ce faux départ nous a amené à nous poser des questions sur l'urbanisme et sur la posture professionnelle que nous essaierions d'adopter si d'aventure on se décidait à nous donner du boulot. Nous envisagerions d'appeler cela une prise de recul. » Mais nous confessons qu'il s'agissait surtout des conséquences du désœuvrement, ce que nous considérerions plus tard comme notre époque de chômage créatif. Alors, ils ont créé au départ un blog qui s'appelle 2degrés.net et vraiment qui réagit au second degré, comme son nom l'indique, à l'actualité du moment avec un regard d'aménageur, d'urbaniste. Et c'est assez marrant parce que quand on parle des problématiques d'insécurité, de banlieue, de choses comme ça, ils ont des façons de retourner un peu le regard qui parfois sont permettent de prendre un peu de recul aussi par rapport à cette actualité, pas forcément toujours facile. Et donc 2degrés, c'est créé avec cette combinaison de l'imagination et de l'inactivité de jeunes urbanistes qui ont réfléchi à leur discipline à défaut de pouvoir l'exercer. Et finalement, ils se retrouvent confrontés face à, c'est un peu caricatural, mais à deux grandes façons d'exercer un métier qu'ils ont choisi et pour lequel ils ont été formés. D'un côté, ils disent la commodité consistant à appliquer des recettes toujours un peu les mêmes, en fonction de quelques problèmes bien ciblés, ce qui marche ailleurs, ce qui est possible techniquement, en caricaturant un urbanisme de technicien qui exagère sa scientificité. C'est vrai qu'on a toujours tendance à aller chercher des bonnes petites recettes qui marchent bien. Et puis de l'autre côté, la prétention artistique, cette tendance consistant dans la lignée des architectes à additionner des concepts fumeux et à penser qu'ils sont révolutionnaires pour au final faire des rues et des maisons. Et effectivement, c'est bien le mot d'un urbanisme à la fin. enfin, de faire des rues et des maisons, de faire une ville. Voilà.
Et oui, donc, mais enfin, la façon, en fonction de la façon où on les fait, on ne crée pas la même ville et on ne crée pas la même vie qui va avec, ni le contexte social qui va ensuite en découler.
C'est certain. C'est pour ça qu'ils
Mais le fond est le même, même si la forme change, effectivement. Le fond, c'est toujours de construire. Oui. Quelque toujours. Part, voilà.
Ou dans tous les cas, d'aménager. Oui. Non, mais voilà.
Mais le fond est là, mais c'est le la fond, fin qui change. Voilà.
Et donc, bah, pour eux, finalement, un urbanisme, ça devrait critiquer les purs techniciens pour leur caractère laxatif et amener les artistes à refermer leurs braguettes. Hein. C'est de la citation. Certes, ça semble manquer de gueule et de méthode. Voilà, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes de leur travail.
Et du coup, si le livre fait 200 pages, il y a forcément donc, des arguments.
Oui, il y a des arguments, mais avec du second degré, de l'ironie. Voilà, il précise que dans l'éventualité où il nous lirait, les gens sérieux pourraient nous faire remarquer que c'est un peu facile de traiter leur travail sur le mode de la dérision. Il est vrai que même si ça demande un peu d'imagination et de rigueur, la posture est confortable. On serait en droit d'attendre de notre part un projet, une pensée urbaine, une ambition pour l'avenir de la ville. Mais bon, voilà, ils sont quand même conscients des limites de leur démarche, qui consiste à prendre comme point de départ un concept, une situation potentiellement relativement bête, d'en faire une lecture premier degré et jusqu'au boutiste, allant même jusqu'à l'absurde. Donc voilà, mais les résultats font parfois réfléchir. Et il est bon, même s'il n'est pas toujours facile d'en tirer quelque chose de constructif, il y a quand même, en tous les cas, pour moi, des choses intéressantes qui en ressortent. Alors après, toujours dans leur avant-propos, ils ont une réflexion, ils prennent un peu de recul. Lorsque nous développons une réflexion sur l'urbanisme, il vient toujours un moment où nous nous demandons si ce développement est juste très con ou s'il ne renferme pas un vague fond de pertinence. Cette impression dérangeante semble partagée puisqu'elle suscite des réactions. L'incertitude pesant sur notre pertinence est ce qui fait notre force et c'est pourquoi nous avons conçu ce livre en restant fidèles au principe directeur de notre site, des préjugés, un peu de méchanceté gratuite, pas mal d'absurdité et beaucoup de mauvaise foi. Forcément, le résultat paraît un peu con, mais dans le fond, la question surjacente est de savoir si en annonçant la couleur, on ne vous prend pas un peu moins pour des cons que les gens sérieux. Voilà, je trouve que... Bon, c'est, vous avez,
mais ça, alors, ça. Ils font que critiquer ou
Alors, ils ont une critique qui est... Non, c'est pas forcément une critique, c'est un changement de regard et une déconstruction des concepts et des façons dont on a l'habitude de le faire. Mais par contre, ils ont une critique un peu de fond, et on le disait tout à l'heure en citant ces célébrités de l'urbanisme et des architectes qui ont travaillé, par exemple, sur le Grand Paris. Effectivement, ils sont des jeunes diplômés un peu expérimentés, peu dignes de confiance, parce que forcément, aujourd'hui, quand on demande de concevoir des grands projets, de concevoir la ville, on va plutôt le demander à des gens qui ont 60 ans ou plus, et qui donc forcément seront morts ou séniles pour se soucier des conséquences de ce qu'ils auront proposé. Voilà. Mais c'est aussi, derrière ça, c'est aussi de montrer justement le. Je pense que pour eux, dans cette période un peu de recherche d'emploi, c'était aussi de montrer qu'ils pouvaient avoir un regard aussi un peu critique et qu'ils avaient envie, dans tous les cas, de prendre part à ce processus d'aménagement du territoire.
Ouais, moi, je trouve que c'est quand même un peu facile. On a perdu, il n'y a pas très longtemps, Oscar des Meilleurs à plus de 100 et quelques années, qui, lui, a eu, alors peut-être la chance, parce que ce n'est pas arrivé à beaucoup d'architectes, mais de construire de A à Z...
Brasilia.
Je suis en train de chercher Brasilia, la capitale du Brésil, ville principale. Et donc, lui, il s'est lancé ce défi. Il n'avait pas 100 ans à l'époque.
Il était jeune quand il l'a fait.
Il l'a fait, mais... Bon, peut-être que eux n'auront jamais cette opportunité, mais en attendant, ils critiquent tout et ils sont pas. Ils proposent pas.
Oui, mais alors justement, donc il y a pas que des critiques, c'est du concret aussi où ils proposent des choses ou pas.
Parce que là, c'est toi qui nous raconte mal, mais
oui, parce que là, jusqu'à présent, on a l'impression que c'est juste effectivement une critique de ce qui a déjà été fait.
Donc, ils proposent un petit pari.
Oui. Mais alors c'est quoi
ce petit pari?
Alors, il y a une tribune qui est publiée sur slate.fr. qui explique un petit peu leur vision des choses. Pour 2 degrés, l'Île-de-France est la plus pourrie de toutes nos régions et personne ne s'est demandé s'il était vraiment pertinent de faire encore grossir une métropole de 12 millions d'habitants, surtout quand on voit les problèmes que cela pose déjà. Alors pourquoi ne pas opter pour un petit Paris?
Parce qu'à l'échelle du monde, des villes de plus de 10 ou 15 millions d'habitants Paris fait pas partie des plus grandes villes du monde.
Non, on est une petite ville hein, finalement.
Voilà, et on n'est pas une des villes les plus dynamiques, ni une des mégalopoles. Alors après, on peut leur reprocher plein de choses, mais.
Voilà, on arrête de parler de Guillaume, il a envie.
Parle-nous de ton petit Paris.
Mais voilà, mais donc en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que finalement, le diagnostic des économistes qui parlent de concurrence mondiale, d'impitoyable compétitivité avec les grandes métropoles, et se base sur tout un tas de classements qui ont, bon, pour seul mérite de classer des trucs, hein, nombre de scientifiques, nombre de sièges sociaux. Bon, les économistes ont effrayé les élus, ils ont convaincu que si Paris ne grandissait pas, Paris perdrait des places dans les classements, c'est à voir aussi. Hein. C'est pas forcément. Ça peut se remettre en cause. Mais ce qui est vrai aussi en même temps.
C'est ça aujourd'hui.
Pas forcément, après la question, c'est
par rapport à ce genre.
Oui, mais est-ce que. Est-ce que ça vaut forcément le coup d'être toujours.
Le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi et c'est la mondialisation. Enfin bon.
Bien, alors après, autre. Après, il faut le croiser aussi avec un diagnostic des urbanismes qui rappelle que les conditions de vie des Parisiens sont pas faciles du tout, avec des temps de transport, le coût de la vie, la qualité des logements, l'accès aux services. Et on est finalement dans une ville qui aujourd'hui est saturée. Qui a trop de monde par rapport à ses capacités d'accueil. Et ça, c'est quand même aussi une problématique. Donc forcément, les élus ont choisi d'aller sur les deux aspects parce que forcément, il faut aller sur les deux.
En même temps, il y a des Parisiens qui sont très contents, qui quitteraient jamais Paris pour rien au monde.
Mais on est bien d'accord.
Et qui, quand on leur propose des postes ailleurs en France, ne veulent pas. Donc,
mais donc voilà.
Pas non plus voir tout en or.
Il faut rester.
Il y a des conditions de vie, je pense, qui sont beaucoup plus compliquées et difficiles. Mais bon.
Sans doute. Mais bon, en tous les cas, c'est pas forcément très facile de vivre. En région parisienne,
Ils peuvent venir en Lozère.
Oui, mais bien sûr, on va en parler après. C'est un peu sur la forme d'une critique, mais en tous les cas, pour eux, le postulat, c'est pas de forcément vouloir un Paris encore plus grand, bourré de scientifiques et de PDG, accueillant.
Mais alors, ils proposent quoi du coup? Parce que.
On y vient.
Parce que là, en fait, ils veulent rien, mais qu'est-ce qu'ils veulent?
En fait, ils veulent que leur recommandation, en fait, mais après qui est détaillée dans l'ensemble du livre, c'est une ville. Ils disent « Nous avons décidé d'aider la capitale française en la réduisant, en aménageant un petit Paris, une île de France amputée de 2 ou 3 millions d'habitants. »
D'accord.
« Si les élus veulent réellement une meilleure qualité de vie pour les franciliens, faites en sorte que certains partent la découvrir, cette qualité de vie, et nous proposons de détruire les logements qu'ils vont abandonner et d'en faire autre chose. » Mais il y a tout un détail.
Oui, alors moi, quand j'entends ça, je manque à avoir une attaque quand on voit le nombre de gens qui dorment dehors, quoi. Ou de locaux vacants qui servent à rien. Ouais, d'accord.
Il ne me plaît pas du tout ce livre.
Hein, je tiens à le dire.
Mais
qu'on a du mal à.
Faut le lire. Mais c'est vraiment dans la façon dont.
Mais en fait, moi, je ne vois toujours pas comment est leur petit Paris.
Mais il faut lire le livre. Il y a beaucoup. Il y a vraiment.
Alors, on vous parle d'un livre. Mais débrouillez-vous. Voilà.
Mis
à part, par exemple, alors là, tu nous parles de démolition. Mis à part ça, en fait, comment ils voient leur petit Paris? Ça veut dire.
Mais ils réfléchissent sur plein de choses.
Parce que jusqu'à présent, ils critiquent beaucoup. Mais
Il y a plein d'aspects sur l'aspect de la durabilité, justement. Et comment on
crée plus de parcs.
Comment on transforme réellement l'idée de la ville durable?
On interdit les voitures, par exemple. Non, je ne sais pas.
Mais il faut le lire parce que. C'est très précis.
Il n'a pas compris ce qu'il a lu, mais non, pas du tout.
Mais non, mais est-ce qu'on a interdit, par exemple, la circulation des voitures? Est-ce qu'on limite, comme aujourd'hui, on le propose sur le périph'? Il y a plein de propositions. Mais quoi?
En citer une.
Parce que là, on détruit simplement les bâtiments, quoi.
Justement.
Ils vont être contents, ceux du 16e arrondissement.
C'est le point de départ.
Laisse parler Guillaume.
Mais justement, en fait. Parce
qu'on n'a pas beaucoup de buildings, c'est pas New York. L'idée. C'est une ville qui est.
L'idée, c'est de reprendre, en gros, trois gros concepts qui sont l'aspect de mixité sociale, la question de la ville durable. et la question de la vie culturelle, du lien social, etc. Et de finalement pousser un peu la réflexion pour se dire, est-ce que, enfin voilà, derrière ces grands concepts derrière lesquels on met qui sont un peu tarte à la crème, parce que ben voilà, aujourd'hui c'est bien de dire la ville durable, d'avoir une mixité sociale, etc. Bon, voilà, ils poussent le truc au bout. Alors il faut pas lire ce livre avec en se disant c'est une proposition sérieuse, enfin réalisable en l'occurrence. C'est enfin voilà, c'est une façon de tordre des concepts et de conduire à réfléchir à comment on pourrait imaginer les choses autrement, mais on est, enfin c'est de l'utopie, voilà, mais c'est quand même assez intéressant, me semble-t-il, à lire, voilà.
Et donc en gros, il faudrait amputer 2 à 3 millions d'habitants à l'Île-de-France, et alors on en fait quoi de ces gens?
Ah, voilà, mais ça c'est effectivement la grosse question, et c'est ce qui manque, ça sera peut-être la suite de l'ouvrage.
Tu en feras une chronique dessus.
Oui, je referai une chronique dessus.
Bienvenue en Lozère.
Et qu'est-ce qu'on fait des 2 à 3 millions de personnes qu'on vire, quoi. Voilà. Et donc voilà, bah forcément on les installe en région, hein. Donc après voilà, mais en province en tous les cas par rapport à Paris, mais voilà, est-ce qu'on les installe dans les villes de la région, dans les campagnes, tout ça, le débat est, enfin en tous les cas, il n'esquisse pas ce débat, il se concentre vraiment sur Paris, ces changements, la façon de le repenser, et donc au final, je pense que c'est un excellent sujet pour la suite de cet ouvrage.
Bon, et alors donc, tu nous en parles pourquoi aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'est pas sorti, sorti en septembre, enfin c'est pas...
Voilà, il est sorti en numérique en avril.
D'accord.
Bon, je l'ai lu cet été.
Tu as préféré lire ce
208
bouquin
208 pages de ce... formidable ouvrage plutôt que 50 nuances de gris.
C'est
alors
ça.
Là, je comprends rien.
Parce que là, il y a du concret dans 50 nuances de gris. Là, j'ai l'impression que.
Si, il y a du concret aussi.
Il y a du concret.
Mais bon, voilà, vous l'avez compris.
Bon, les mecs, ils ont un peu fumé, non?
Non,
ils sont au chômage, ils fument, ils savent pas
non,
quoi.
Non,
faire.
Vraiment, il y a de l'ironie.
Ils mangent des crêpes aux champignons.
Il y a de l'ironie, c'est évident. Mais c'est intelligent et pas si absurde que ça. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, on est dans des choses. On est dans des raisonnements qui sont donnés et qui ne sont pas, enfin qu'on peut suivre et qu'on peut suivre de façon en étant honnête intellectuellement, voilà. Et je trouve ça intéressant à lire. Bon, après voilà, hein, c'est mon métier d'être aménageur et urbaniste, donc forcément ça me touche plus personnellement.
J'espère que toi t'as des arguments un peu plus solides qu'eux, parce que...
Non mais ils ont vraiment des arguments, ils ont 208 pages d'arguments, mais le problème c'est que, enfin, si je commençais par parler d'un truc aujourd'hui,
citer quelques exemples, enfin bon.
Bon, je vous en reparlerai une prochaine fois.
D'accord.
Et puis donc pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que en fait ils lancent une campagne de financement participatif pour l'impression de leur ouvrage en papier.
Oh bah, je pense pas qu'on leur donne un euro.
Cher, là, il faudrait qu'ils me donnent de l'argent
sur Ulule. Sur Ulule, voilà. Donc bon, pour ceux qui auraient envie d'en entendre, d'y jeter un œil, vous pouvez aller voir le site de degré.net. Et puis ils parleront aussi de leur livre au salon Provemploi, le salon de l'emploi en région. Ça c'est assez marrant. Donc justement, peut-être qu'ils aborderont cette deuxième phase que deviennent les gens qu'on vire de Paris. Voilà. Bon, alors,
et on ne sait pas non plus comment on les choisit, ceux qu'on vire.
Ah mais on
les choisit. Si c'est les pauvres, non?
Non, c'est pas, on n'est pas. Non, non, au contraire, puisque comme on fait de la mixité sociale,
oui. Voilà. On les garde.
Gardons nos pauvres.
Non mais voilà, bon, il y a quelques concepts, voilà, dans le bouquin, notamment la ville bandante. Hein, voilà. Bon, il y a des trucs. Et voilà.
Ça aurait été plus sympa.
Voilà, t'en avais des exemples bien.
Voilà, mais bon, donc.
En plus, ça aurait plu à Ludovic.
Voilà, parce que là, il s'est assoupi.
Donc, n'hésitez pas à aller voir la tribune sur Slate qui parle du petit Paris, parce qu'elle a l'avantage d'être relativement courte et de décrire un petit peu plus le contenu.
Bien, bah écoute, merci beaucoup pour cette chronique, Guillaume. Et puis, alors maintenant, tu nous proposes d'écouter quelle chanson?
Alors, bah, je vous proposais J'aime plus Paris de Thomas Dutronc. Et désolé pour tous ceux qui auraient trouvé que ce thème était un petit peu trop sérieux, ou en tous les cas, voilà. Bon.
Bon.
On écoute donc Thomas Dutronc.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens sont gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Même plaque et or, Paris est mort. Il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme Lennon. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire. Pour ces parias, la ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, le Paris d'Audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais Paris. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
Et lui.
Et voilà, maintenant c'est moi qui fais le lancement de la troisième partie, puisque c'est Anne-Marie qui est en train de manger. Et voilà, et donc Aurélie qui va nous parler de l'île Tromelin.
Et oui, voilà, effectivement, j'ai décidé que je vous emmenais en voyage à l'autre bout du monde, dans un de ces petits confettis de France qui sont répartis dans l'océan Pacifique. Alors, c'est la rentrée, et même si le soleil refait une petite apparition... Ah, voilà, parfait. Moi, je me mets à rêver d'îles du Pacifique, de mer bleue et de chaleur. Et vous voyez, là, vous avez le petit son des vagues. Alors, si je vous dis taf, vous me dites quoi?
Ah bah, je dis...
Tu vas tricher, parce que tu as lu ma chronique.
Mais non, les TAF, les terres australes et antarctiques françaises.
Et ouais, voilà. Donc là, tout de suite, je vous entends ricaner parce que les TAF, c'est les îles Kerguelen ou la Terre Adélie. Donc, moins 40 toute l'année et pour seuls habitants, bipèdes, quelques pingouins, militaires ou météorologues. Mais en tout cas, l'eau est un peu trop froide pour nous. Mais bon, l'île dont je veux vous parler est assez différente. Enfin, pas pour le peuplement, parce que c'est aussi à peu près ça, mais pour son histoire. En fait, en 2007, donc l'île Tromelin fait partie, avec les autres îles éparses, c'est pas beau quand même ce nom, les îles éparses, du 5e district des terres australes et antarctiques françaises, qui représentent à elles toutes un seul territoire d'outre-mer. Donc l'île Tromelin, alors tout ça, hein, quand je vous dis ça, territoire d'outre-mer, ça vous rappelle vos cours de géographie, j'imagine, du collège.
C'était il y a très longtemps.
Voilà, c'est ça, où on parle des territoires, des DOM et des TOM, et ben voilà, on y est. Donc l'île Tromelin est une petite île de l'océan Indien qui donc appartient aux îles Éparses et est située, pour vous aider un peu, à 450 km à l'est de Madagascar ou à 335 km au nord de l'île de la Réunion. Elle est entourée de grands fonds marins puisqu'à plus de 4000 mètres de profondeur et on ne sait même pas encore trop s'il s'agit du sommet émergé d'un volcan sous-marin ou bien d'un atoll un peu plus surélevé.
Donc là, c'est une île paradisiaque avec cocotiers. On prend le maillot de bain ou pas, là ?
Alors, effectivement, je parle d'atoll, donc ça peut faire rêver, mais pas tout à fait, en fait. La flore est assez peu développée, en fait, du fait de conditions météorologiques et du manque d'eau douce, surtout. Et à l'exception de 2 ou 3 mois en été, l'île est balayée nuit et jour par les alizés, qui sont assez soutenus en hiver.
Ah, donc on prend pas le maillot de bain ?
Pas tout de suite, surtout qu'en été, elle subit des cyclones et des tempêtes tropicales. En plus, son point le plus élevé n'est qu'à 7 mètres d'altitude. Donc, elle est vraiment battue par les flots et les vents. Alors, pour vous la décrire, elle est de forme ovoïde. Avec une côte, en fait, on en fait le tour en 3,7 km de sable blanc, là, pour le coup. Mais, effectivement, un tout petit bout d'île. Elle fait 1700 mètres de large sur 1700 mètres de long. Sur 700 mètres de large, je vais y arriver. Donc 1700 et 700.
En voilà. Gros, les 2 à 3 millions de Parisiens qu'on ne sait pas voilà, où mettre, on les met pas ici.
Non, on peut pas. Non.
Là, ils tiennent pas.
Alors, d'autant qu'en plus, elle est ceinturée par une barrière de récifs coralliens qui est très dangereux pour la navigation et qui rend son accès très difficile. En fait, il n'y a qu'un endroit où on peut accoster. Et encore, uniquement par temps calme, c'est un point au nord-est où il y a une légère passe, en fait, dans le récif. Et très souvent, en fait, les lames déferlent qui rendent tout abordage impossible. Mais bon, pour les cocotiers d'Anne-Marie, je tiens le bon bout, parce qu'en fait, il y en a quelques-uns qui ont été introduits par l'homme. On a fait quelques essais de plantation, mais en fait, ça n'a pas trop réussi, à part justement quelques cocotiers qui venaient des îles Glorieuses et donc qui ont réussi quand même à s'implanter.
C'est où les îles Glorieuses ?
Ah bah, c'est pas très loin, en fait, c'est à côté. Ça fait partie justement de ces petits confettis du Pacifique. Et du coup, donc, il y a peu de végétation, c'est difficile d'y aller et en même temps, il n'y a pas vraiment d'habitants permanents. Quelques Bernard l'ermite, des oiseaux marins comme les fous masqués à palme noire, c'est pour vous dire, ou les fous à pieds rouges qui, eux, sont permanents, ou de passage comme certaines frégates en suivant le régime des vents, des sternes, ou, et enfin là, de façon un peu plus présente, les tortues marines, pour lesquelles l'île en fait est un lieu de ponte. Et vous le savez peut-être, elles reviennent toujours pondre au même endroit. Il y a eu quelques espèces halochtones qui ont été introduites lors des différents naufrages, des rats, des souris ou des lapins. Mais là, c'est bon, en 86, il y a eu un cyclone et tout le monde a été décimé. Donc, il n'y a vraiment plus de vie, plus d'animaux
importés. Ouais, en gros, c'est un tas de sable sans vie animale ni végétale. Alors pourquoi nous en parler ?
En plus, tu nous dis en introduction de ta chronique, je vais vous faire rêver. Excuse-moi, là, c'est un petit peu tombé à l'eau.
Je fais rêver tous les Parisiens qui étaient entassés les uns sur les autres.
Oh, les pauvres, ils vivent dans des conditions terribles.
Voilà. Eh bien, je vous en parle parce que si elle est si petite que vous ne l'avez peut-être pas vue passer dans l'actu cet été, et pourtant elle était bien là. Pour plusieurs raisons. D'abord, son sort a été mis entre les mains des parlementaires. En fait, si en 2013, Tromelin est un îlot inhabité au milieu de l'océan Indien, depuis 1999, la France envisage de partager sa souveraineté donc avec l'île Maurice. Le texte est passé plus ou moins inaperçu au Sénat. Les sénateurs l'ont ratifié sans débattre. Ok, on partage.
Ils ne savaient pas où c'était.
Voilà,
pas c'était.
Exactement, ça ne sert à rien. Ouais. Procédure simplifiée, pas de débat. Un accord conclu donc en 2010 qui prévoit donc de partager l'administration de cette île avec l'île voisine, donc l'île Maurice, qui revendique en fait la souveraineté, carrément eux, depuis leur indépendance de 1968. Et l'Assemblée nationale aurait probablement fait de même si au mois d'avril, le député du Tarn, un de nos presque voisins, Philippe Fleuriot, lui, il est passionné justement par tous ces petits morceaux, de l'ancien Empire français. Et puis, vous connaissez peut-être un Tarnais célèbre, c'est l'explorateur du Grand Nord, Jean-Louis Etienne, qui l'a alerté là-dessus. Et tous les deux, ils se sont rebellés un peu contre cette décision. Il a écrit à Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, et évoqué, alors je vous cite, un grave précédent d'abandon de souveraineté. Donc, il reconnaît bien que l'îlot est inhabité, mais que après tout, c'est quand même le domaine, ça étend le domaine maritime français de 280 000 km², c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la France métropolitaine.
Alors, qu'est-ce qu'a fait l'Assemblée nationale ?
Eh bien, victoire pour Monsieur Folliot. Le texte a été reprogrammé en procédure régulière avec un débat à la clé.
Et alors, quel est l'intérêt de se battre pour cette île ?
Eh bien, en fait, pourquoi cette île corallienne particulièrement inhospitalière est assez intéressante ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de richesse dans le sous-sol, mais encore une fois, son domaine maritime, 280 000 km², suscite beaucoup de convoitises avec des eaux qui sont possiblement pétrolifères, donc là, vous voyez tout de suite, et ce qu'on appelle une zone d'économie exclusive, les ZEE, qui sont rattachées à l'île, et donc tout autour de... Ça correspond à l'espace maritime tout autour de l'île, où on pêche le thon. Une autre richesse. Alors, certes, pour le moment, ces eaux ne grouillent pas encore de thoniers, puisqu'ils préfèrent croiser de l'autre côté de Madagascar, dans le canal du Mozambique, mais ça pourrait bien changer, en fait. Et puis, l'esprit d'entreprise de certains pirates somaliens qu'on a vu descendre jusque-là, en fait... pousse désormais les cargos à se dérouter vers l'Asie et à passer près de Tromelin. Donc ça va devenir une nouvelle route maritime dans des eaux territoriales françaises, donc ça étend notre influence.
Et donc c'est les débats à l'Assemblée nationale qui ont égayé ta curiosité pendant cet été.
Attends, on sait ce qu'a fait Aurélie les mercredis après-midi, elle regarde les débats de l'Assemblée nationale.
Alors, oui,
pour puis regarder wouhou toute la semaine.
Oui, avec chips. Une après-midi de folie, chez
en
Aurélie.
Replay.
Ah, oh, j'ai loupé.
Eh bien non, pas du tout. En fait, en cette année 2013, c'est une nouvelle campagne de fouilles archéologiques de l'île qui m'a intéressée. Et en fait, cette île a connu un épisode tragique qu'on a appelé les naufragés de Tromelin. Alors, je vous raconte la petite histoire. Donc, partie de Bayonne le 17 novembre 1760, l'Utile, une flûte de la Compagnie française des Indes orientales.
Un
bateau. S'échoue le 31 juillet 1761 sur l'île de Sable. Aujourd'hui, elle s'appelle Tromelin, mais à l'époque, vous imaginez, on savait d'ailleurs même pas trop où elle était. Il s'échoue dessus. Elle transporte des esclaves malgaches achetés en fraude et destinés à être vendus sur l'île de France, l'actuelle île Maurice. L'équipage, en fait, et les esclaves qui ont pu se réfugier sur l'île fabriquent une embarcation de fortune et l'équipage, en fait, embarque et traverse jusqu'à l'île Maurice en abandonnant 80 esclaves sur l'île avec 3 mois de vivres et une vague promesse de venir les rechercher. Cette promesse n'a jamais été tenue et c'est que le 29 novembre 1776, soit 15 ans plus tard, que l'enseigne de vaisseau de Tromelin, commandant de la corvette, ça aussi c'est un bateau Guillaume, oui. La Dauphine, sauve les survivants. Il restait à ce moment-là plus que 7 femmes et un bébé de 8 mois.
C'est ça qui a inspiré Lost ou pas ? Enfin, la série, on sait qu'il y a des survivants sur l'île.
Non, c'est malheureusement tragique et ils étaient moins nombreux, moins de végétation aussi.
Rappelle-toi dans Lost. Bah, en même temps, oui, c'est sûr que ça devait être compliqué. Mais...
Voilà.
Et donc les fouilles archéologiques, c'était pour connaître le sort des naufragés ?
Oui, effectivement, les 3 premières missions, donc 2006, 2008, 2010, ont permis d'étudier l'épave de l'Utile, de mettre en évidence l'ampleur des habitats qui avaient réussi à construire les naufragés, de mieux cerner leur organisation, la faculté d'adaptation à la condition de naufragés dans un milieu aux ressources limitées, mais qui ont été mises à profit, visiblement avec beaucoup d'ingéniosité. L'objectif de la mission de 2013, donc co-dirigée par le groupe de recherche en archéologie navale et l'Institut de recherche archéologie préventive, est de poursuivre l'étude des conditions de vie matérielles, psychologiques et sociales des naufragés. Donc en fait, la fouille des habitats, la recherche de leur sépulture aussi, ne serait-ce que pour connaître les relations de parenté qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres, l'étude des restes alimentaires pour déterminer avec précision les ressources dont ils pouvaient disposer.
En 2013, on trouve des restes alimentaires de 2700...
Eh oui. Dans les fouilles, effectivement, on va trouver des pollens, on va trouver des morceaux d'animaux, des os, des choses comme ça. Voilà.
Ouais, alors comment t'as pris connaissance de cette histoire et de cette île du bout du monde ?
Alors, ce fait divers un petit peu singulier du naufrage de l'Utile a inspiré en fait un livre qui s'appelle « Les naufragés de l'île Tromelin » d'Irène Frein, qui est paru en 2009. elle nous livre en fait un document historique assez passionnant, sobrement raconté, mais un peu à la façon d'un roman. Ce qui fait que dès le début, le lecteur est tenu en est tenu en haleine par le naufrage de l'utile, brisé par les déferlantes. On nous parle de, vraiment de l'île comme d'un personnage. Et malgré la maigreur des témoignages de l'époque, elle arrive à restituer la figure vraiment lumineuse du premier lieutenant de Castellan qui prend le commandement de l'île, parce que le vrai commandant, il a été tellement déprimé par son naufrage qu'en fait, il a pété un plomb, quoi. Il est devenu fou. Donc, c'est son second, le premier lieutenant, qui va prendre le commandement de l'île, organiser les choses. Et c'est à partir des seuls témoignages de l'écrivain et du chirurgien de bord, ainsi que des recherches archéologiques, qu'elle a pu mener son enquête et reconstituer cet épisode à la fois captivant et tragique de notre passé négrier. Faut pas l'oublier. C'est une époque assez trouble et ahurissante pour nous, humains du XXIe siècle, où l'homme blanc n'avait pas encore identifié l'homme noir comme un homme, au même titre que lui. C'est une histoire poignante qui aura eu au moins le mérite de servir la cause abolitionniste, et en particulier Condorcet, dont on sait qu'il connaissait cet épisode et qu'il l'a utilisé pour faire avancer son combat.
Et on suppose qu'il y a eu d'autres ouvrages ?
Oui, alors il y a eu aussi un ouvrage scientifique en 2010. Donc le CNRS et l'INRAP ont publié un livre qui s'appelle « Tromelin, l'île aux esclaves oubliés ». Un ouvrage scientifique, mais quand même destiné au grand public. Il s'appuie sur les recherches scientifiques effectuées depuis 2004 et les résultats donc, des deux missions archéologiques. Et puis bon, pour ceux qui préfèrent la BD, en fait, il existe une bande dessinée d'Emmanuel Lepage qui s'appelle « Voyage aux îles de la désolation ». Alors là, c'est un petit peu plus vaste, puisque ça relate en fait une rotation du Marion Dufresne, encore un bateau, Guillaume, donc le Marion Dufresne 2 désormais même, qui est en fait qui fait un passage à l'île Tromelin. Donc c'est un bateau ravitailleur qui est rattaché donc aux terres australes et antarctiques françaises et qui effectue des tournées régulières dans toutes les îles éparses de l'océan Indien, dont Tromelin, Juan de Nova, Glorieuse, Europa, Bassas da India. Toutes ces îles où il y a aussi, où il peut y avoir des permanences militaires ou scientifiques. Et cette rotation, c'est aussi l'occasion d'une mission scientifique pour étudier la faune et la flore de ces îles. Et aussi, alors ça c'est le petit côté environnemental, retirer les déchets qui ont été laissés au fil des années par les différents occupants. Mmh. C'est aussi un camion poubelle, le Marion Dufresne.
Juste, tu nous disais qu'en fait l'île ne s'appelait pas Tromelin au départ.
Oui.
C'était
l'île de sable.
Pourquoi avoir changé le nom de cette île ?
En fait, en l'honneur du capitaine de Tromelin qui vient sauver ces quelques rescapés, 8 personnes rescapées.
Et tu nous tiendras au courant de ces débats, donc, puisque les débats reprennent, reprendront.
Oui, on va voir si effectivement on garde la souveraineté ou si on la partage.
Bon, en tout cas, ça ne sera pas notre prochaine destination. Hein,
de vacances.
Si partir en voyage.
Ouais, un sujet à suivre en tous les cas.
Voilà.
Que nous proposes-tu d'écouter ?
Une petite blague, je vous propose Capitaine Abandonné de Gold.
Ça va faire plaisir.
tu,
elle
et lui.
Ben, on fait hop, 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 et puis voilà.
Et voilà, voilà, et l'émission. Voilà. l'émission touche à sa fin. Voilà, c'était une belle émission, je crois, cette semaine. Donc, vous la réécouterez.
Comme toutes les semaines.
Comme toutes les semaines, comme toutes les semaines.
Tous les 15 jours, calmez-vous.
Mais on peut l'écouter toutes les semaines, Aurélie. Maintenant. Tu sais bien que c'est rediffusé. Voilà.
Rediffusion, donc, ce mardi, enfin, le prochain, les deux mardis qui viennent à 18h11 et jeudi prochain. À midi et demi, voilà. Donc, c'est nos nouveaux horaires. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à réagir si vous avez aimé cette émission ou pas. Si vous voulez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas. Et puis, l'émission est téléchargeable sur 48fm.org, au même titre que toutes les autres émissions déjà diffusées par la radio. Et puis, bien, avec toutes les. Sauf les deux émissions des années 80, mais on n'y reviendra pas. Voilà. Hein, parce que sinon, après, ça va encore faire des histoires. Enfin, voilà. Bien, bah écoutez, on va vous souhaiter à tous une bonne journée.
À bientôt.
À très bientôt.
À bientôt. Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle.
Elle.
Lui.
Lui.
D'actuel.
Et lui.